Bienvenue dans cette édition spéciale de l'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition des fêtes consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné cette année Radio France Internationale. Nous avons le plaisir de partager avec vous ces deux prochaines semaines des extraits des meilleurs reportages soumis au concours par Radio-Canada, la RTBF, Radio France, la RTS et bien sûr RFI. Aujourd'hui, nous vous emmènerons avec les lauréats au Liban et puis nous partirons en croisière pour une expérience inédite de femmes atteintes du cancer du sein. Un podcast, un balado, comme on dit du côté de Montréal, proposé par la RTS. Et nous retrouverons les autres candidats la semaine prochaine. Ce prix du journalisme, c'est le choix des auditeurs. Au début du mois de décembre, ils étaient 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et puis aussi dans le reste de la francophonie grâce à RFI. 100 auditeurs au total donc qui ont choisi leur reportage préféré parmi les propositions des 5 radios francophones publiques. Un choix qui s'est donc porté sur Radio France Internationale. Le journaliste Nicolas Falaise et le réalisateur Nicolas Benita se sont rendus à Beyrouth. Nous sommes en septembre dernier, cela fait un mois qu'une énorme explosion a dévasté le port et plusieurs quartiers de la capitale libanaise, faisant 200 morts et des milliers de blessés et de sans-abri. Cette catastrophe s'ajoute à l'accumulation de crises qui frappent le Liban sur fond de blocage politique. Beyrouth, l'espoir en faillite, on écoute un extrait du reportage de Nicolas Benita et Nicolas Falaise et puis on retrouve les deux lauréats juste après.
RFI, grand reportage.
Voilà, alors j'ai eu un bout de verre dans le dos, ce qui fait que j'ai 26 points de suture dans le dos. J'ai 6 côtes cassées. Ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle un pneumothorax, c'est-à-dire de l'air et du sang dans les poumons. En une seconde, tout a explosé, tout est passé par moi. Donc je me considère comme un miraculé, je rends grâce à Dieu quoi, d'être vivant. Quoi. C'est un miracle.
C'est dans un couloir de son appartement de Beyrouth que Omar Boustany a été grièvement blessé par l'explosion du 4 août. Omar a 50 ans, des boucles grises. Ce créatif qui travaille en indépendant dans le domaine de la publicité est aussi un Libanais en colère.
Moi j'étais déjà engagé dans la révolution du 17 octobre contre ce pouvoir illégitime, corrompu, qui marche dans l'axe iranien, qui est très néfaste et nauséabond pour le Liban. Déjà, c'était la catastrophe. Il n'y a pas d'électricité, pas de mazout. Déjà, c'était la catastrophe. Mais on n'imaginait pas qu'une bombe atomique allait détruire la moitié de la capitale et nous dans nos maisons. Et aucune explication, aucun deuil, pas une journée de deuil. Le président n'est même pas descendu voir les gens. Pas un ministre n'est descendu sur le terrain. Pas de drapeau en berne. L'armée n'a pas aidé à sauver les survivants, c'est les gens eux-mêmes qui... Rien, zéro état, la faillite totale. Même au niveau symbolique, qu'est-ce que ça coûte de mettre un drapeau en berne? Rien.
Une ruelle, des escaliers, une terrasse. Nous entrons chez René Bembo, deux pièces modestes dont les murs sont recouverts d'une peinture sans âge et d'images pieuses. René Bembo a 74 ans, court cheveux blancs, et au pied une paire de baskets roses. Elle a toujours vécu dans ce quartier de Beyrouth, ravagé par l'explosion, survenue à seulement quelques centaines de mètres d'ici.
Mais quand il y a eu l'explosion, j'étais sortie pour donner des vêtements à des pauvres, puis j'ai entendu comme un bruit d'avion. Alors j'ai couru, j'ai vu que des décombres. J'avais peur. J'ai eu peur que ce soit la guerre. Une fois arrivée ici, j'ai vu que deux portes étaient tombées sur mon lit. Si j'y avais été, je serais morte. Et à l'étage d'en dessous, tout avait disparu. Tout était démoli. Personne ne m'a aidée jusqu'à maintenant. Seuls ces jeunes hommes que vous voyez là sont venus. Ce sont eux qui réparent les portes et les fenêtres. Mais je n'arrive pas à dormir. Depuis que je suis toute petite, j'ai peur de vivre seule. Et maintenant que tout est ouvert, je ne dors pas. Je reste éveillée jusqu'au petit matin.
C'est une superbe maison entourée d'un jardin dans le quartier de Mar Mikhaïl. La porte d'entrée est désormais inaccessible, il faut passer par la propriété voisine et franchir un muret éventré pour arriver ici. Privée de ses fenêtres, la maison ottomane, bâtie au début du XXe siècle, est ouverte aux quatre vents. Un casque de chantier vert sur sa chevelure brune, La psychanalyste Reina Sarkis nous attend au dernier étage de sa demeure en ruine.
On nous ressasse à longueur de journée l'histoire de la résilience, qui est un concept qui est faussement appliqué, faussement compris, et qui ne veut absolument plus rien dire, puisqu'à la base, la résilience, c'est l'élasticité psychique et la capacité à rebondir d'un traumatisme, et non pas à s'adapter sans fin, comme dans une sorte de mise en abîme, de trauma en trauma, et de rester dans une sorte de survie qui dégénère et qui se désintègre, et dire oui, c'est de la résilience. Jamais de ma vie, je n'ai entendu un cri aussi massif et collectif de détresse psychologique. Pour beaucoup de Libanais, le seul endroit où ils se sentent encore relativement en sécurité, c'est quand ils sont chez eux. Et c'est le seul endroit où on est encore dans une sécurité, même si elle est fictive, mais dans une sensation de sécurité. Je ne comprends même pas comment je suis vivante aujourd'hui. Mes voisins du dessus, d'en face, ils sont soit morts, soit dans les hôpitaux, ils ont des tendons arrachés, des genoux explosés, des côtes, un œil qui a sauté. Je vous parle aujourd'hui, j'étais devant la baie vitrée, l'explosion est venue vers moi, j'ai été soufflée, je me réveille dans des dégâts, dans un truc apocalyptique de fin de monde. Et je réalise petit à petit que c'est pas moi, c'est mon appartement, c'est mon immeuble, c'est pas mon immeuble, c'est le quartier, c'est pas le quartier, c'est la ville.
Nicolas Benita, Nicolas Falaise, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
RFI a donc diffusé ce reportage un mois après l'explosion dans le port de Beyrouth. Quelles ont été, au fond, vos rencontres les plus marquantes auprès de cette population meurtrie de Beyrouth ?
On fait surtout des rencontres fortes et qui marquent. On ne doit pas creuser longtemps pour sentir la détresse, la colère et les témoignages très parlants sur ce que traverse ce pays depuis des mois. Jusqu'à cette psychanalyste que nous avons rencontrée dans un décor incroyable, sa superbe maison ottomane soufflée, un vrai décor de théâtre d'après-catastrophe. Pour moi, l'image, elle est toujours là. Je vois Reina au milieu de ce décor racontant des Libanais brisés parce qu'ils traversent dans leur pays.
L'espoir en faillite, c'est le titre que vous avez choisi. C'est vraiment le constat que vous faites à l'issue de ce voyage à Beyrouth.
Tout à fait. C'est l'impression que nous ont donné tous les intervenants. C'est d'être au bout. Les gens ne savent plus quoi faire. Et j'étais absolument abasourdi de voir un État absent. Pas de représentants de l'État dans les rues, pas d'armée pour aider à déblayer. C'est l'improvisation d'une jeune génération entre 25 et 40 ans qui met son savoir et son imagination au service de tout le monde en comptant sur personne d'autre qu'eux. C'était à la fois impressionnant humainement et stupéfiant politiquement.
Donc quelque part, la psychanalyste Reina Sarkis, elle a raison, il y a plus de résilience possible pour la population libanaise où justement ces jeunes, ils maintiennent quand même un espoir en se mobilisant eux-mêmes. Au fond, c'est la société civile qui s'est mobilisée.
Vous pointez du doigt quelque chose qu'on a ressenti très très fort. Elle disqualifie ce concept de résilience qui colle à la peau des Libanais. Et pourtant, on peut être stupéfait de la solidarité de voir des jeunes, quelques heures après une explosion d'une puissance inimaginable, remonter leurs manches et ramasser les gravats et des semaines après, recueillir des fonds pour changer les fenêtres des gens qui n'en ont plus. C'est tout à fait paradoxal, mais c'était une réalité qui nous a sauté aux yeux à Beyrouth à ce moment-là.
Nicolas Falaise et Nicolas Benita, merci beaucoup et félicitations encore.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Nous retrouverons la semaine prochaine les reportages soumis par Radio France, la RTBF et Radio-Canada. Aujourd'hui, nous vous proposons encore un extrait du sujet soumis par la RTS. En novembre 2019, 8 femmes larguent les amarres à Santa Cruz de Tenerife et mettent le cap sur la Martinique. Elles vont traverser l'Atlantique sur un catamaran. 6 d'entre elles ont eu un cancer du sein. Une skipper et une médecin complètent l'équipage. Pendant 3 semaines, elles vont naviguer, mais aussi beaucoup partager sur cette maladie qui touche une femme sur 8 en Suisse. La journaliste Francesca Girofo est à bord. Dans ses bagages, 2 enregistreurs radio et une grande envie de raconter cette épopée insolite dans un podcast. 8 femmes à bord, en voici un extrait.
Parce que toi, t'as dû avoir la même chose. T'as eu une intuition.
Non, c'est pas une intuition. Parce que moi, en fait, j'ai loupé mon contrôle. Je me suis pas inquiétée. Et voilà.
Et voilà. Ça, c'est ma réponse. C'est pas une super réponse. Le moment où j'ai appris mon cancer, c'était un moment assez émouvant aussi pour moi, assez fort, et je m'en souviens très bien. Mais je trouve tellement difficile ici à bord de pouvoir à la fois recueillir des témoignages et être équipière, c'est-à-dire être à la fois dedans et dehors. À ce moment-là, je ne suis pas très à l'aise avec ça.
On m'a retiré les deux seins en même temps. C'était pas plus mal par souci de symétrie. Et ma maman, la première réaction de ma maman était de dire « Mais Stéphane, c'est pas possible, on ne peut pas t'enlever tes seins. » Et la réponse était « Mais ce ne sont pas mes seins qu'on va m'enlever, ce sont mes cancers. » Vu comme ça, effectivement, c'était plus logique. Et j'avais une petite phrase dans ma tête, « Angelina Jolie l'a fait, pourquoi pas moi ?» Si une femme aussi belle que ça peut le faire, moi aussi je dois le faire.
À un moment donné, ben, on te fait comprendre que la vie continue, puis qu'il y en a marre, quoi, puis que tu n'arrêtes pas de parler de ta maladie, puis qu'il faudrait peut-être que tu changes de sujet. Puis là, ben, je l'ai pas mal pris, bien au contraire, parce que je pense que mon mari, en me disant ça, il m'a rendu service. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin qu'on te bouscule, quoi, surtout que j'étais en état de dépression. Et je me dis, ben là, 50 ans, c'est peut-être ma deuxième adolescence, tu vois. J'ai envie de faire des chouettes trucs. Je me dis, ben voilà, on peut encore. Mais on fait des choses à notre niveau, quoi.
Caroline 2.0.
Et je pense que le fait de savoir, je me mets à la place de mes filles, de se dire, ben ma mère, tu vois, elle va faire un truc un peu exceptionnel. Je me dis, ben tiens, là, ça va les rendre fiers, quoi. Ça va pas seulement être ma mère, elle a eu un cancer, mais du coup, ma mère a traversé l'Atlantique. C'est quand même un peu plus sexy, quoi.
Huit femmes à bord, un balado en 5 épisodes et un prologue à découvrir sur les différentes plateformes de podcast. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous des médias francophones publics dans le second volet de cette édition spéciale de l'Accent des Autres consacrée au prix du journalisme des MFP. Nous vous proposerons la semaine prochaine les reportages de Radio France, de la RTBF et de Radio-Canada.